autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Nous sommes en direct avec Cécile Lestienne, de Cerveau et Psycho. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Caroline Tourbe, de Sciences et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Mathieu Novak, de Sciences et Avenir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et Philippe Pajot, de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Ensemble, nous allons nous intéresser à notre cerveau aujourd'hui, comment la révolution du cerveau va changer nos vies, comment améliorer nos capacités cérébrales, comment rester attentif. Nous demanderons aussi comment nous, les humains, allons continuer d'évoluer et jusqu'où. Et nous suivrons enfin avec attention les pistes prometteuses de la toujours très attendue pilule pour hommes, chimère ou réalité. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, bienvenue. Et on commence par un petit cocorico. Deux chercheuses françaises, la biochimiste Emmanuelle Charpentier et la généticienne Christine Petit, viennent d'être honorées par le prestigieux prix Kavli, décerné par l'Académie des sciences et des lettres de Norvège, aux chercheurs, je cite, dont les travaux pionniers bénéficieront à toute l'humanité.
For the invention of CRISPR-Cas9, the Norwegian Academy of Science and Letters awards the 2018 Kavli Prize in Nanoscience to Emmanuelle Charpentier, Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin, and finally, for their pioneering work on the molecular and neural mechanisms of hearing, the Norwegian Academy of Science and Letters awards the 2018 Kavli Prize in Neuroscience to Christine Petit, Collège de France, Pasteur Institute in Paris.
Christine Petit, Emmanuelle Charpentier. Alors Emmanuelle Charpentier, mondialement reconnue déjà, Caroline Tour, pour la mise au point des fameux ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9. Mm-hmm. Si j'y arrive, vous nous faites un petit rappel des faits.
Ben oui, si vous voulez. Alors, CRISPR-Cas9, c'est un outil moléculaire, donc fait de petites molécules, qui permet, quand on l'introduit à l'intérieur de la cellule, d'éditer le génome. Alors ce mot éditer, c'est si parce qu'on continue à comparer le génome à une suite de lettres. Et avec cet outil-là, on peut rajouter des lettres, enlever des lettres, bref, manipuler le génome, le transformer beaucoup plus facilement qu'on ne le faisait avant, parce qu'on savait quand même le faire avant. Mais là,
ce qui est formidable, mais ce qui pose d'énormes questions.
Alors
aussi,
voilà, hein. Oui, c'est vraiment le progrès de la science, ça va bouleverser nos sociétés, c'est certain, ça ouvre aussi des boîtes de Pandore. Et Emmanuelle Chartier, elle en a conscience.
Charpentier,
elle a vraiment un rôle de vigie hein, sur CRISPR-Cas9. Et puis.
Donc on peut dire que c'est bien qu'elle ce prix, elle le mérite entièrement, évidemment partagé avec la chercheuse américaine avec qui elle travaille. On connaît peut-être un petit peu moins Christine Petit, et encore, c'est une généticienne qui travaille sur l'audition et qui a mis en lumière les mécanismes moléculaires et neuronaux de l'audition, Philippe Pajot.
Oui, exactement, elle a travaillé sur les gènes impliqués dans l'audition et elle a travaillé beaucoup sur la surdité héréditaire. Donc c'est une chercheuse qui est également mondialement reconnue. Ça fait moins de bruit sans doute que ce qu'avait fait Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, mais quand même. Et surtout l'aspect intéressant, c'est qu'elle va ouvrir à la fin de l'année, fin 2018, début 2019, un institut, l'Institut de l'Audition, qui va être juste à côté de l'Institut de la Vision. Un institut du même type, c'est-à-dire avec à la fois de la recherche fondamentale, mais également les applications, des start-up, et ça va être dirigé par Christine Petit, qui va essayer de monter tout cet écosystème autour de l'audition pour justement tenter de comprendre et de guérir tous ces problèmes de surdité.
Et ce prix Kavli devrait l'y aider, puisque la récompense est $1 million pour poursuivre leurs travaux, qui on l'espère vont bénéficier à toute l'humanité, et ce sont deux femmes, Cécile et Lestienne tout de même, hein, qui ont
absolument,
été
ça fait mieux
valorisées et honorées.
Ça fait mieux que les Nobel, je crois d'ailleurs que cette année, il y en a trois pour le prix Kavli. Prix Kavli, c'est un prix dont on n'a pas beaucoup entendu parler, je trouve, ces derniers temps. C'est pas très très vieux, hein, ça date d'une dizaine d'années. C'est décerné tous les deux ans par l'Académie des sciences de Norvège et le philanthrope Fred Kavli, enfin la fondation que ce monsieur a fondée puisqu'il est décédé aujourd'hui, et qui était un Américain qui était d'origine norvégienne, ça explique pourquoi, et qui veut, enfin, il le disait à lui-même, hein, concurrencer le prix Nobel. D'ailleurs, 1 million d'euros, c'est à peu près, je pense, que ce que décerne aujourd'hui la Fondation Nobel. Sauf que c'est tous les deux ans et c'est des domaines de recherche très précis. C'est physique, biologie, c'est nanosciences, neurosciences et astrophysique.
C'est trois domaines. Et donc, deux femmes et deux Françaises dans la catégorie neurosciences et nanosciences. On salue Emmanuel Charpentier et Christine Petit autour de la question comment les neurosciences cognitives, justement, infusent et se diffusent dans la société et jusque dans l'éducation nationale. Je propose maintenant d'écouter un extrait de l'interview que Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, a accordé à Sciences et Avenir, Mathieu Novak.
Montaigne disait déjà que l'éducation est la science la plus complexe et la plus importante pour l'être humain. Et donc le fait qu'elle soit complexe, le fait qu'elle soit difficile, signifie qu'on doit être tout en subtilité et tout en humilité. Donc je ne crois absolument pas que, par exemple, les avancées actuelles des sciences cognitives nous représentent l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut penser sur l'éducation. Mais elles nous apportent incontestablement quelque chose d'important et ce serait fou de ne pas s'y intéresser.
Ce serait fou, Mathieu Novak, de ne pas s'y intéresser aux avancées des sciences cognitives. Là, c'était le ministre de l'Éducation nationale qui le disait, qui souhaite adapter l'apprentissage en fonction des découvertes des neurosciences. Son interview est à lire dans ce dossier que consacre Sciences et Avenir aux capacités du cerveau.
On a une machine absolument extraordinaire qui s'appelle le cerveau, c'est-à-dire c'est 80 milliards de neurones. Et ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est que même si on a un câblage qui est déjà bien mis en place avant la naissance, et ensuite on a des milliards de connexions qui se forment après jusqu'à 25 ans, mais en fait on garde ce qu'on appelle une plasticité cérébrale. C'est-à-dire que les choses ne sont pas figées à la fin de l'adolescence, vers 25 ans, et que tout au long de la vie, on peut entraîner son cerveau pour obtenir des nouvelles connexions entre ces neurones, une reconfiguration et même des nouveaux neurones.
Donc il faut entretenir son cerveau et vous nous dites un peu comment faire, enfin les pistes à suivre qui sont finalement...
Alors oui, je voudrais presque... Assez évidente. Je suis peut-être un peu obligé de vous décevoir. Si je ne veux pas vous donner la recette d'une super et pilule ou d'un morceau de Mozart à écouter qui va développer tout d'un coup toutes les capacités enfouies du cerveau. Mais c'est vrai que selon ce qu'on veut développer, on s'est aperçu qu'on a des choses assez simples. Par exemple, une chose surprenante pour l'apprentissage, et c'est quelque chose qui est très important pour les enfants, comme on parlait de l'éducation, on a découvert que l'activité musculaire a un impact immédiat sur les performances cérébrales. Alors c'est aussi vrai chez les enfants. On a vu que les enfants qui font un peu de sport, mais pas du sport de haut niveau, une activité modérée pendant la journée, eh ben ils ont des meilleurs résultats en anglais, en maths, en sciences.
Donc il faut peut-être un peu moins les coincer derrière leur bureau aussi.
Ah oui, oui, il faut les laisser bouger. Et c'est aussi vrai pour les adultes. C'est tout aussi vrai pour les adultes. On a vu que vraiment il y a des rapports directs entre une activité sportive et des capacités d'apprentissage, de mémoire après 40 ans, après 50 ans.
Donc faites du sport pour stimuler
votre cerveau. On ne sait pas encore très bien comment ça marche. On a vu chez la souris que l'activité musculaire va amener à la production de protéines qui vont permettre de fabriquer ce qu'on appelle des facteurs de croissance dans le cerveau. En fait, c'est des molécules qui vont permettre la formation de nouveaux neurones ou de booster cette plasticité. Alors ça, on a vu ça chez la souris, on ne l'a pas encore montré chez l'humain, mais il peut y avoir un lien vraiment de causalité directe comme ça entre l'activité physique et la mémoire et le développement du cerveau.
Vous nous apprenez aussi comment éviter les bugs cérébraux.
Il faut que je rassure tout de suite, le cerveau il bug et c'est tout.
C'est normal.
Et c'est normal, il ne faut
d'accord.
pas s'inquiéter.
Merci.
Les meilleurs spécialistes mondiaux d'Alzheimer, ils sont les premiers à dire que si vous avez oublié vos clés, si vous savez plus, vous avez un truc sur le bout de la langue et vous savez plus ce que vous allez dire, eh ben tout ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde et c'est pas du tout un signe de maladie.
Donc, comment entraîner notre cerveau, les capacités du cerveau, pourquoi et comment chacun peut progresser, n'est-ce pas Mathieu? Vous avez bien étudié le numéro pour comment entretenir son cerveau.
Il me semble, j'ai un léger trou de mémoire, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux.
C'est à relire, aussi à lire dans Sciences et Avenir de ce mois de juin, dont je vous rappelle à mes auditeurs que nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner. Ce mois-ci, c'est notre cerveau qui fait la une de la presse scientifique, à suivre la révolution du cerveau, avec les deux rédacteurs en chef très spéciaux du 100e numéro de cerveau et psycho, à feuilleter juste après avoir rassemblé toute notre attention. Focus Your Mind, le groupe Metaphysics sur RFI. I'd like to introduce, my name is Metaphysics, the infinite grand wizard of weed and magician, and you are. And I am Raymond Shockey, aka. Keep my mind peaceful, focus.
the mind's imagination. Thoughts provoke higher meditation. We drink from the valley and the juice of wine, so divine, so we never cross the line, cause we process the mind's imagination. Thoughts provoke higher meditation. We drink from the valley and the juice of wine, so divine, so we never cross the line.
Creative vision, light, the division and source, creating living organisms that feed off the force. The simple elements form this complex mechanism. I think therefore I'm living, giving life its definition. My intuition guided by quantum frequencies and vibrations created by the spiral galaxies. Gravity's attraction is the fire that burns deeper than the planet's core, causing the world to turn. The movement is attraction by the sun's illumination. The moon's counterbalance maintains orbital rotation. Mathematical principle is E equals existence. The rest are variations, molecular combinations. My creation is the physical form that manifests and has developed through a course of nature taking its steps. Let's subtract time, it represents only perception, and observe existence as instant evolution. The valley of the Big Bang explosion is this. Motion could only occur when chaos exists. Otherwise, all would be perfect and remain calm and still. But within its own destruction, it's allowed itself to build. Thus, infinity becomes the mechanism's main ability. Once understanding this, God found his tranquility. Knowing that he will always be, death becomes immortality. Spirit begins to form, that's creating the Trinity.
Focus the mind's imagination.
Focus the mind avec le groupe Metaphysics sur la radio mondiale.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Et oui, nous réclamons toute votre attention, amis auditeurs, ce qui est de moins en moins évident. On est toujours plus distrait, débordé par toutes nos technologies portables et numériques. La lutte pour capter notre attention est de violente aujourd'hui. C'est le célèbre psychiatre Christophe André, l'un des rédacteurs en chef, invité par Cerveau et Psycho, Cécile Lestienne, dans ce numéro 100, consacré à la révolution du cerveau. L'autre rédacteur en chef invité n'est autre que le neurologue Laurent Cohen, donc neurologue et psychiatrie enfin réunis à la une de ce numéro 100 de Cerveau et Psycho.
Absolument. Pour ce numéro 100, on voulait faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Donc, on a demandé à Christophe et Laurent, qui sont des, avec lesquels on collabore depuis très longtemps, de nous aider justement à choisir parmi les multiples sujets de recherche qui existent en ce moment sur le cerveau, quels étaient aujourd'hui les plus intéressants, les plus prometteurs et qui nous ouvraient effectivement des perspectives pour notre vie de tous les jours, dont l'attention.
Et ben voilà, parce qu'en guest star de ce numéro spécial, le chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud, qui est spécialiste de l'attention et qui nous met en garde contre une nouvelle maladie, on va y venir tout de suite, celle de l'inattention qui nous guetterait tous et de plus en plus et partout, comme il nous l'expliquait lui-même, Jean-Philippe Lachaud, il y a quelques mois, ici même dans ce studio.
Pour venir ici, je suis passé dans le métro et vous savez, vous avez tous ces écrans. J'ai vu une bande-annonce, je pense, 30 fois pour un film d'action récent. Mon attention est captée, mon regard tire tout de suite à partir, voire même ma tête, mon corps, je vais m'orienter. Et donc en suivant ça, en suivant ces déplacements du corps, je vais pouvoir comme ça suivre et observer les déplacements de mon attention.
Au fond, il s'agit de reconnaître quoi, sa propre inattention, comme l'expliquait Jean-Philippe Lachaud, Cécile Lestienne. C'est ce qu'il vous explique aussi dans Cerveau et Psycho.
Dans Cerveau et Psycho. Et d'ailleurs, nous avons fait une petite fête à la Cité des Sciences pour ce numéro 100, pour laquelle nous avions invité Christophe André, Laurent Cohen et Jean-Philippe Lachaud. Et la vidéo est en ligne sur cerveauetpsycho.fr.
Je vous conseille, amis auditeurs internautes,
de le regarder, parce que Jean-Philippe Lachaud explique effectivement absolument très bien comment fonctionne notre attention. On est dans un monde où on est sursollicité, c'est pas un scoop, on sait très bien que voilà, on est sursollicité par des tas de messages extérieurs, par tous nos petits outils numériques, par nos smartphones et tout ça. Et si on veut résister un peu, il vaut mieux comprendre comment fonctionne notre attention. Notre attention, c'est justement le temps de cerveau disponible dont on parlait il y a quelques temps.
Et qui intéresse beaucoup de monde,
notamment beaucoup de publicitaires, c'est le fait de pouvoir sélectionner un élément particulier et de se focaliser dessus. Et ça, c'est le fruit de plusieurs réseaux dans le cerveau. Ça explique pourquoi c'est pas si simple. Il y a un réseau qui s'occupe de l'attention générale. C'est ce qui vous permet de sursauter si une porte claque, par exemple. C'est évidemment très important pour savoir s'il y a un danger qui arrive. Voilà, ça c'est un réseau particulier du cerveau. Et il y a aussi le cortex préfrontal, celui qui revient tout le temps justement et qui permet de diriger l'attention volontaire. Je décide de lire ce magnifique article de Cerveau et Psycho, voilà, ou de Science et Vie. Et puis, il y a le circuit de la récompense aussi qui intervient beaucoup dans l'attention. C'est ce qui fait plaisir. Et c'est ce qui explique que notre attention se laisse très facilement distraire, parce que tout d'un coup, quelque chose qui brille, quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est amusant, quelque chose qui est intriguant, attire votre attention.
Notre cerveau, au fond, il est presque fait pour la distraction. Et donc, c'est un travail que de le ramener, d'autant plus aujourd'hui où on est sollicité de toutes parts.
Absolument. D'ailleurs, une des expérimentations que monte en ce moment Jean-Philippe Lachevaux, c'est le programme Atoll, l'attention à l'école, qu'il monte dans la région lyonnaise où il travaille, explique très bien ça aux enfants. C'est normal d'avoir du mal à se concentrer. C'est normal que notre attention se laisse distraire de temps en temps. D'abord parce qu'il faut surveiller un petit peu ce qui se passe au cas où, et puis parce que notre cerveau est fait pour, et que c'est pas parce qu'on est paresseux qu'on n'arrive pas à se concentrer, d'où c'est concentre-toi, ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Oui, c'est pas par injonction que ça marche.
Ce n'est pas par injonction que ça marche, mais quand on commence à comprendre comment ça marche, c'est beaucoup plus facile d'essayer de ramener tout le temps son attention. L'image que prend tout le temps Jean-Philippe Lachaud, c'est l'image du funambule, c'est l'image de la poutre. Voilà. C'est pas si difficile que ça de marcher d'un point A à un point B sur une poutre, mais quand même, il faut faire attention, sinon vous tombez. Voilà. Et l'attention, c'est un peu comme ça. Il faut aller d'un point A à un point B, lire un article du début jusqu'à la fin et pas se laisser distraire. Voilà. Ou, en tout cas, savoir ramener son attention régulièrement. Et ça s'apprend.
Et ça s'apprend, et ça s'apprend, et c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui, on l'a dit, qu'on est sollicité de toutes parts. Voilà peut-être pourquoi aussi Jean-Philippe Lachaud a remporté un très succès lors de votre soirée, parce qu'au fond, c'est vraiment des questions qu'on se pose
tous. Que tout le monde se pose.
Et quand on commence par se dire, c'est pas grave, c'est normal d'être distrait, mais je peux ramener mon attention, ça marche un peu mieux, ça a marché pour vous, Céline Estienne ?
Oui, je dois avouer que ça m'aide beaucoup de savoir ça, parce que je me laisse facilement distraire aussi. Une des choses aussi qu'il explique très bien et qui va avec l'attention, c'est le mythe qui veut que nous soyons ou que nous devons être multitâches. Et ce n'est pas vrai. Nous aimerions bien être des demi-dieux, des superwomen,
savoir tout faire en même temps
et pouvoir travailler et regarder Roland Garros. Mais non, ce n'est pas vrai.
Et ce n'est pas bon.
Et non, mais c'est surtout que ce n'est pas possible. Ah. Donc, après tout, si vous avez envie de vous laisser distraire, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas possible. Pour l'expliquer à un enfant, c'est assez facile. Par exemple, si vous avez un enfant qui sait déjà quand même lire, voilà, vous lui donnez un petit texte et puis vous lui dites « compte les E dans le texte ». Voilà. Il va compter les E et puis après tu lui dis « c'est quoi l'histoire de ce texte ?» Il ne va pas être capable, voilà. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Même si, en fait, il a lu le texte pour compter les E, mais il n'a pas focalisé son attention sur le sens des mots. Voilà. Pour nous, c'est pareil.
Donc, il faut comprendre comment ça marche, comprendre qu'on ne peut pas tout faire en même temps, sauf si on en a envie, mais dans ce cas-là, on n'est pas attentif du tout.
C'est une question de choix, justement. C'est une question de ne pas se laisser manipuler, ne pas errer pendant des heures sur les réseaux sociaux en se disant « mais pourquoi j'ai regardé ça ?» Voilà. Ou faire le choix de se dire « mais oui, j'ai envie de regarder des inepties ».
Pour apprendre à redevenir attentif, la maladie de l'attention, c'est à lire dans ce 100e numéro de Cerveau et Psycho, qui a donc invité le psychiatre Christophe André et le neuroscientifique Laurent Cohen pour être rédacteur en chef de ce numéro spécial Révolution du cerveau, dont nous avons quelques exemplaires. Amis auditeurs, à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook à l'écoute d'un autre genre de cerveau, celui de Pérez.
Sur la carte de ton cerveau, c'est juste un dessin. Sur un papier froissé, aux couleurs ternes, aux traits mal assurés. Mais quand j'effleure de l'index l'image de ton cortex, un frisson te parcourt, et ton corps résonne comme la boule d'un tambour. Il suffit que je vise la zone précise pour que les hormones jaillissent de ton hypophyse. Alors tes muscles se contractent et tes pommettes écarlates se soulèvent en un large sourire, comme si tu étais au beau milieu d'un rêve. Demain.
j'allais, porté par l'électricité.
De neurones en neurones, le cerveau de Pérez sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, comment l'homme continue d'évoluer. Philippe Pageau, c'est le dossier de la recherche de ce mois de juin qui revient sur notre évolution humaine d'Homo sapiens au scénario possible pour l'homme du futur, l'homme augmenté entre science et science-fiction. Allez, on commence par la fiction avec cet extrait de The Mechanical Apartheid, court-métrage futuriste qui annonçait la sortie du jeu vidéo Deus Ex Machina, l'humanité divisée.
La technologie fait des progrès phénoménaux, que ce soit avec les yeux cybernétiques ou les membres artificiels.
La promesse d'un avenir meilleur.
Nous avons désormais le choix de nous affranchir de nos propres limites.
Force, puissance, vitesse. Maintenant, je peux me concentrer sur l'essentiel.
Ces augmentations ont-elles vraiment été testées ?
On nous accuse de choses contre nature, de nous substituer au divin. Au tout début, les gens craignaient l'électricité. Et pourtant, sans où en serions-nous aujourd'hui ?
Cette technologie tombait entre de mauvaises mains.
Imaginez des virus, des maladies qui décimeraient l'humanité entière.
Bon, tous les scénarios sont possibles, et même les pires. Comment l'homme va-t-il évoluer? Comment continue-t-il d'évoluer? C'est le dossier de la recherche, Philippe Pageau, qui a posé la question à plusieurs spécialistes pour remonter le temps et pour l'imaginer.
Exactement. Alors, il faut peut-être commencer par comment on a évolué, peut-être, avant de partir sur des scénarios de fiction, parce que, effectivement, on est le fruit d'une évolution très longue. Et quand on essaie d'imaginer notre évolution future, il faut savoir ce qu'on veut dire par là.
D'où on vient.
D'où on vient, voilà, exactement. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on évolue encore, on évolue en permanence, notre ADN change, mais c'est un processus long, c'est ça donc, qu'il faut bien avoir à l'esprit. On ne va pas devenir une nouvelle espèce du jour au lendemain, c'est extrêmement long, et c'est même sans doute très difficile, parce que pour devenir une nouvelle espèce, il faut qu'une une mutation, hein, on parlait tout à l'heure de CRISPR-Cas9, de ces lettres de l'ADN, un variant, se transmette de génération en génération dans toute la population, et comme on est 7 milliards, ça va être un petit peu dur et un petit peu long.
Donc on a évolué, on continue d'évoluer, à notre échelle de temps à nous, extrêmement
lentement. Alors il y a des exemples récents extrêmement intéressants. Par exemple, il y a une population de plongeurs d'Indonésie qui s'appelle les Bajo, qui sont depuis à peu près 1000 ans qui plongent et qui vont plus de dizaines de mètres de profondeur qu'ils vont récupérer, qui pêchent. Hein. Et on s'est demandé, est-ce qu'ils ont eu une adaptation? Est-ce qu'ils ont évolué pour un avantage adaptatif
pour
plonger? Et en fait, on a étudié notamment leur rate, et on s'est aperçu que leur rate était 50% plus grande que celle d'une population témoin.
Donc il y a des adaptations à l'échelle d'une génération.
Ah non, c'est pas de génération, là, c'est quand même c'est de l'ordre du millier d'années qu'il faut compter. Hein. La génération, c'est pas du tout suffisant. Il y a d'autres exemples qui sont assez connus, c'est l'adaptation à la vie en altitude chez les peuples de l'Himalaya, du Tibet par exemple, ou du Népal. Il y a les aborigènes dont on s'est aperçu aussi qui s'étaient adaptés ils avaient des gènes d'adaptation qui s'étaient adaptés à la vie dans le désert. Donc là, c'est des échelles de 10 000 ans.
Et puis, il y a les virus et les épidémies, malheureusement, si j'ose dire, qui font de force évoluer peut-être plus vite, ou en tout cas qui sont moteurs de cette évolution.
Exactement. Alors, ça, c'est un autre point, c'est qu'on n'évolue pas tout seul. On co-évolue avec les virus, avec toutes sortes de parasites. Et ça, c'est quelque chose qui façonne, en fait, notre système immunitaire, qui a façonné notre système immunitaire au cours du temps. Et qui et donc l'impact en fait des maladies infectieuses sur l'évolution est très importante.
Ce qui veut dire que les épidémies pourraient encore nous faire évoluer, Philippe Pageau. Enfin.
Alors tout à fait. Par exemple, on peut prendre l'exemple du VIH. Alors le VIH, en fait, quand on l'examine, en fait, il est possible que dans les populations les plus exposées, les individus qui sont biologiquement plus résistants que d'autres au VIH aient plus de descendants. Et donc c'est une hypothèse qu'on n'a pas vérifiée, mais qu'on peut essayer de tester. C'est pas tout farfelu de le dire quand on connaît la virulence du VIH.
Mais c'est donc ces évolutions, on le comprend bien. Hein, vous dites c'est à l'échelle au moins du millénaire, donc c'est beaucoup plus long que ce qu'on pourrait imaginer. Pour ce qui est de alors pas de la science-fiction, mais d'imaginer les scénarios pour l'homme du futur, vous avez fait intervenir Jean-Sébastien Steyer, qui est un paléontologue féru de science-fiction.
Exactement, hein, Jean-Sébastien Steyer, qui écrit aussi chez nos camarades de pour la science. a beaucoup réfléchi justement à ces problématiques d'évolution future. Notamment, il a écrit un livre, Demain, les animaux du futur.
Absolument, nous l'avions reçu.
Voilà, là-dessus. Il nous a un petit peu raconté comment, dans les scénarios de science-fiction, on imaginait l'homme du futur. Et en fait, il y a surtout un biologiste qui s'appelle Dougal Dixon, qui avait réfléchi à ces évolutions possibles. Mais alors là, il faut quand même dire qu'on est quand même dans le domaine de la science-fiction et qu'on n'est plus du tout dans le domaine de la science. Hein.
Ce sont des spéculations,
Et comme je vous l'ai dit, comme on est sur des échelles de plusieurs milliers d'années, dizaines de milliers d'années, on ne peut absolument pas dire de quelle manière on va évoluer dans le futur. Parce qu'en fait, on est très très semblable à ce qu'on était il y a 10 000 ans, il y a 20 000 ans. On n'a pas beaucoup évolué. Donc, dire demain, on va devenir... nos cerveaux vont augmenter parce que on va devenir tous obèses. Là, c'est vraiment de la spéculation.
C'est pas sûr du tout. En revanche, on risque de devenir des hommes augmentés. Ça, c'est possible.
Alors,
ça peut changer notre...
C'est vrai qu'on on a cette caractéristique d'être une espèce ingénieure. C'est-à-dire qu'en fait, on change notre environnement, pas seulement localement, comme certains animaux, mais globalement. Et donc, une conséquence de ça, c'est que d'abord, en changeant notre environnement, il va falloir s'y adapter. Et c'est pas sûr du tout qu'on y arrive à s'y adapter suffisamment vite.
Oui, on le change plus vite que nous-mêmes sommes capables de nous y adapter.
Il y a des exemples quand même assez frappants où il y a des populations qui historiquement se sont adaptées, par exemple à l'arsenic. Dans l'eau qu'ils consomment, il y a 20 fois plus d'arsenic que dans l'eau qu'on consomme nous. Ils s'y sont adaptés, mais ça a duré encore une fois plusieurs milliers d'années. C'est quelque chose qui n'est pas du tout arrivé
à des
échelles. Et donc du coup, avec le changement climatique rapide, l'adaptation et l'évolution de l'homme ne sera pas évidente du tout.
Pourquoi et comment l'homme continue d'évoluer et à quel rythme? Dossier complet à lire dans La Recherche de ce mois de juin, dont nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs, pour savoir où va le monde. Allez, on écoute La Femme sur RFI. La femme s'interroge sur RFI et nous aussi autour de la question comment la science infuse et se diffuse. On se demande avec vous, Caroline Tourbe, dans Science et Vie, si la pilule masculine va enfin voir le jour. De nouvelles recherches ravivent cette quête d'un vrai contraceptif masculin, même si c'est pas encore gagné dans les mentalités. En tout cas, écoutez ce micro-trottoir déniché par Apolline sur le site de Marie-Claire.
Bon, je sais que la pilule féminine n'est pas très bonne pour, en termes d'hormones pour les femmes. Faut voir quel effet ça aurait sur les hommes. Mais si il y a moins d'effets secondaires sur les hommes, pourquoi pas ?
Personnellement, moi, ça ne me choque pas.
Pour moi, ça reste plus la responsabilité des femmes de se protéger par rapport au risque de grossesse que qu'un problème masculin, si vous voulez. Donc, est-ce que c'est un peu macho ? Oui, oui, c'est certainement macho.
Moi, avant de l'acheter, j'aurais besoin de savoir comment elle fonctionne, pour savoir exactement ce que c'est les travers qu'on reproche à la pilule féminine, c'est de savoir exactement son impact sur la santé humaine. Donc, j'aimerais, avant de me lancer dans cet achat, savoir son fonctionnement. Et après, pourquoi pas m'y intéresser de plus près et l'essayer, ouais.
Pourquoi pas l'essayer ? Pourra-t-on un jour l'essayer, Caroline Tourbe ? Pas nous, hein, mais les hommes.
Mais les hommes, oui, voilà. Oui. C'est extrêmement intéressant, hein, ce qu'on a entendu là, parce que c'est vrai qu'en trois points de vue, on a en fait trois questions essentielles pour la recherche d'une pilule masculine, une pilule contraceptive masculine. C'est une course de fond, cette histoire. Ça remonte aux années 70, les premières tentatives, où on se dit, ben, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi proposer un moyen contraceptif sûr, réversible pour les hommes ? De la même façon qu'on a donné des hormones aux femmes pour bloquer l'ovulation, empêcher les femmes de tomber enceintes, est-ce qu'on peut empêcher les hommes d'avoir des spermatozoïdes qui fécondent ? Donc,
oui,
c'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire. Et quelles sont les pistes, justement ? Qu'est-ce qu'on empêche ?
On peut même dire qu'il y a une pilule contraceptive masculine qui existe. Elle peut d'ores et déjà être utilisée par les hommes, mais en fait, ce n'est pas une pilule. C'est une injection massive d'hormones qui permet de bloquer la spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes. Certaines cliniques proposent ça en Occident. On peut avoir accès à ça.
Et c'est réversible.
C'est réversible. Il y a deux soucis majeurs. Donc, la réversibilité, elle est réelle, mais il faut patienter 6 mois avant que ce soit efficace. C'est normal, on s'attaque au problème à l'origine, c'est-à-dire à empêcher la fabrication de nouveaux spermatozoïdes. Donc, 6 mois avant que ce soit efficace, 14 mois avant de pouvoir revenir en arrière, revenir à une fabrication de spermatozoïdes. Donc ça, c'est le premier problème.
Ouais,
le deuxième problème,
c'est
les effets secondaires. Cette méthode, elle est efficace à 96%. Donc, les dernières études montrent que c'est une bonne méthode contraceptive. C'est 99% la pilule pour femmes. Donc, dans la balance, c'est pas si mal. Mais par contre, les effets indésirables de ces injections massives d'hormones chez les hommes, elles sont elles aussi massives. Une fois sur deux, il y a des acnés extrêmement sévères. Il peut y avoir des troubles de l'humeur aussi extrêmement sévères, des modifications totales de la libido. Bref, le risque par rapport à l'utilité et à l'efficacité immédiate de cette pilule injection n'est pas là. Donc, il y a des pistes. C'est ce que vous me demandiez.
Il y a des pistes, et d'autant, enfin, quand vous parlez de ces effets secondaires terribles, d'autant qu'on l'a bien entendu dans ce micro-trottoir, les hommes sont, c'est le moins qu'on puisse dire, plutôt réticents à s'emparer de la question de la contraception et à la gérer. Parce que les femmes supportent peut-être mieux les effets secondaires parce qu'elles en sont obligées.
Ou parce qu'elles se sentent, elles ont dans leur chair ouais. les conséquences des problèmes de contraception, ce que n'ont pas les hommes. Néanmoins, c'est évidemment un problème aussi de couple. Et donc ça, c'est aussi la deuxième limite pour la recherche. C'est-à-dire que les laboratoires, les gros laboratoires pharmaceutiques, ceux qui sont capables d'allonger des sommes importantes pour pouvoir faire de la recherche, eh bien, ils se sont plutôt désengagés du sujet de la pilule contraceptive.
En disant que ça ne marcherait pas.
Voilà. Mais on a quand même trouvé deux pistes. Là, c'est ce que nous, on raconte dans Science et Vie. Il y a vraiment deux pistes. Il y a une piste hormonale, donc qui correspond un peu à ce que je vous ai raconté, mais sauf qu'on a réussi à faire des hormones de synthèse qui peuvent être avalées. Donc vraiment une pilule cette fois, vraiment une pilule contraceptive. Il faut quand même 6 à 8 semaines pour que ça devienne efficace, mais c'est aussi réversible. Il y a une étude qui a été menée sur 100 hommes volontaires. Ça a l'air de bien fonctionner. Ça a un peu une sorte de renaissance de cette piste hormonale, mais ce n'est pas la seule. Il y a une autre piste, alors celle-ci complètement originale, qui ne s'attaque pas à la formation des nouveaux spermatozoïdes, mais qui empêche les spermatozoïdes de sortir du tuyau, si vous voyez ce que je veux dire.
Je comprends.
Comment font-ils les spermatozoïdes, voilà, les spermatozoïdes pour sortir du pénis, eh ben, il y a un phénomène de contraction musculaire, et c'est précisément cette contraction musculaire qui est la cible du traitement qui est à l'étude, qui est pour l'instant uniquement sur des souris. On est encore à des débuts, mais il y a un financement. C'est ça qui fait aussi la différence. C'est que cette piste originale, elle a un financement et elle repose sur deux molécules, et une molécule est déjà présente dans un médicament qui est donné aux hommes, dont on sait qu'il est efficace sur certains troubles de la prostate. Et donc on peut passer à un stade clinique pour cette molécule rapidement. Donc c'est un espoir pas utopique. Hein.
Et oui, il y a un espoir. En plus, on se dit que ça pourrait, pour le coup, passer dans les mentalités masculines, voilà. Notamment, que là, ça pourrait être plus accepté et plus acceptable.
Je suis un homme, je vais avoir des rapports sexuels dans la semaine ou dans le mois, ou même dans la journée, j'avale une pilule et je ne peux pas mettre enceinte ma partenaire, et je n'aurai pas d'enfant, pas de descendance, pendant une période qui serait d'une journée, deux jours, on va voir combien de temps c'est efficace, mais ça serait efficace rapidement. C'est aussi une vraie différence, et réversible rapidement aussi, c'est-à-dire que cette barrière mentale qu'on peut tout à fait comprendre vu ce qui est proposé pour l'instant aux hommes, eh ben elle tomberait et resterait quand même le changement psychologique. Ça, c'est le dernier témoignage ou celui du milieu qui dit qu'il est un peu macho et qu'il voit pas pourquoi il s'en occuperait.
Celui qui s'en occuperait et pas sa femme.
Oui, il ferait mieux de s'en occuper parce que les femmes s'en occupent pas forcément bien elles non plus. Et puis on voit dans certains pays, en France notamment, mais pas que, un désamour des femmes pour la pilule, un retour aux méthodes de contraception dites naturelles. Traditionnelles et qui, elles, ne sont pas extrêmement efficaces. Donc, messieurs, prenez en charge aussi la contraception parce qu'il pourrait aussi vous arriver des bricoles.
Et il pourrait quand la prendre en charge aussi, cette contraception disponible quand
ces injections qui ont un effet carabiné et c'est long. Voilà. La piste la plus innovante que nous, que dans l'article Kera Betayeb qui a eu les chercheurs au téléphone, elle explique que c'est une dizaine d'années. Elle pense qu'il faudra quand même une dizaine d'années pour être certain de proposer de façon massive une pilule efficace et sans effet indésirable trop important aux hommes pour ne pas avoir de bébé.
Bon, dans 10 ans, les hommes auront changé eux aussi vers la pilule pour hommes. Enquête à lire dans Science et Vie de ce mois de juin en écoutant, pourquoi pas, Pongo, dynamisante artiste angolaise en playlist du mois sur RFI. Le morceau s'appelle Tambulaya. Tambulando, yeah, yeah. Tambulando, yeah, yeah. Tambulando, yeah, yeah. Tambula, tambulando, yeah, yeah. Tambulando, yeah, yeah. Tambula, 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 yeah, yeah. Ça déménage, artiste angolaise en playlist du mois sur RFI, histoire justement de recharger nos batteries autour de la question comment la science infuse et se diffuse. On les recharge aussi dans la recherche ce mois-ci. Philippe Pajot, avec l'entretien que vous a accordé Jean-Marie Tarascon, les batteries sont au cœur d'un monde connecté, mais d'autres formes de batteries.
Exactement. Donc Jean-Marie Tarascon, c'est professeur au Collège de France, hein, donc c'est lui qui est titulaire de la chaire de chimie du solide. Depuis 2014, médaille de l'innovation du CNRS 2017, et qui, bizarrement, n'a pas commencé du tout à travailler sur les batteries, alors que aujourd'hui, il a une réputation mondiale sur ce thème. En fait, il a commencé à travailler sur les supraconducteurs, et puis un jour, en 1989, il est travaillé en Californie, il y a eu un tremblement de terre, et tout s'est coupé, et en fait, on s'est aperçu que les batteries locales ne suffisaient pas pour continuer à alimenter. Et du coup, la société dans laquelle il travaillait a dit, voilà, vous avez 48 heures, soit vous travaillez sur les batteries, soit vous partez.
Il s'est mis à travailler sur
les batteries, à tel point qu'il est devenu vraiment un expert dans ce domaine-là. Et donc,
mondialement reconnu.
Mondialement reconnu, exactement. Donc, il a travaillé notamment sur les batteries qui sont aujourd'hui, en fait, les batteries qui fonctionnent le mieux, qui s'appellent les batteries lithium-ion, qui ont à la fois une grande capacité et un grand potentiel essentiel, qui sont pour lui les batteries qui vont perdurer au XXIe siècle, et même, dit-il, au XXIIe siècle. Donc c'est vraiment la technologie actuellement qui fonctionne le mieux. Et les gros travaux en fait là-dessus, c'est surtout, de, comme il explique, c'est de diminuer l'impact environnemental, qui est pour l'instant assez embêtant. Notamment, ces batteries utilisent du cobalt également, et le cobalt, ça pose des tas de problèmes.
Pour l'extraire,
voilà, en RDC notamment. Et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, point intéressant, le cobalt, c'est même plus intéressant de le recycler que de l'extraire du point de vue financier. Voilà.
Pour en savoir plus, grand entretien donc, du professeur Jean-Marie Tarascon à lire dans La Recherche. Dans Science et Vie, Mathieu Nova, que vous intéressez.
Science et l'avenir.
Ah bah oui, dans Science et l'avenir, mais enfin,
on
Mathieu...
On s'intéresse aux batteries, les batteries de Philippe, justement, dont il nous parlait. On les prend et on va les envoyer très très haut.
Mais c'est ça, mais carrément dans la stratosphère.
Dans la stratosphère. Vous vous souvenez en 2015 de Solar Impulse, cet avion solaire
avec Bertrand
Picard. On a réussi à faire le premier tour du monde, bon, par étapes, mais on l'a fait. Maintenant, après avoir cherché la longueur, on va chercher la hauteur. Et on va essayer d'aller, c'est un autre Suisse, Raphaël Donjon, qui va essayer d'aller... vers le haut, et objectif 25 km de haut. Pour le moment, on vise à...
25 km dans un avion solaire.
Dans un avion solaire, avec les batteries lithium-ion dont on parlait à l'instant. Mais uniquement, on a un avion qui a fait près de 25 mètres d'envergure, dont les ailes sont entièrement couvertes de panneaux solaires. Ça va alimenter les batteries, et on va essayer d'aller le plus haut possible. Ce sera un record, on n'est jamais allé aussi haut avec un avion à hélice. Et ça pose des problèmes, parce que les batteries lithium-ion, pour le moment dont on parlait, elles sont certifiées jusqu'à moins 40 degrés. Or, si on veut aller à 25 km, il fait moins 70 degrés. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir, et la quantité d'atmosphère qui reste, c'est 5% de ce qu'on a à notre niveau. Le problème, c'est que comme il faut que l'avion reste très très léger, on ne va pas pouvoir pressuriser la cabine. Donc le pilote va partir.
Ça me semble insoluble,
combinaison. Sa seule chance de survie, ça va être sa combinaison, qui va être une combinaison russe, la même que celle qu'on donne à peu près aux cosmonautes, qui va le pressuriser localement et le sauver de son environnement extérieur.
Donc cet avion solaire qui pourrait flirter avec la stratosphère s'appelle Solar Stratos.
Et l'objectif, donc, c'est 2020, aller à 25 km.
Solar Stratos, à découvrir dans Science et Avenir de ce mois de juin. On va maintenant parler, ça y est, on y arrive à Science et Vie, cette fois-ci, là, je ne me trompe pas, Caroline Tourbe. On va faire parler les morts maintenant, mais grâce à l'intelligence artificielle, j'ai bien lu.
Oui. En fait, c'est un article qui parle d'un fantasme transhumanisme dans lequel on arriverait à créer des avatars qui seraient nourris par toutes les données, tous les messages, toutes les traces qu'on laisse sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et puis, une fois qu'on est mort, on aurait ce grand réservoir qui viendrait nourrir une intelligence artificielle avec laquelle on pourrait, les proches pourraient continuer à converser.
Alors, je ne sais pas si j'ai envie de pouvoir converser avec les traces.
Peut-être vous n'en avez pas envie, mais clairement, il y a des gens qui en auraient envie, et d'ores et déjà il y a des chercheurs ou en tout cas des geeks, des gens qui bidouillent de la technologie, plutôt pas trop mal, qui travaillent autour de ça. Ils mettent au point des chatbots. Les chatbots, on en a déjà un peu affaire à eux, ce sont ces robots avec lesquels on peut réserver, avec lesquels on converse de façon un peu banale, mais pour réserver un billet, pour acheter des objets, voilà, ils répondent à des questions simples. Et il y a déjà un journaliste spécialisé en technologie qui, en se basant sur toutes les données que son père a laissées autour de sa vie quotidienne sur Internet, sur les réseaux, il a recréé un chatbot de son père avec lequel il a des conversations assez simples, mais par exemple ça fait des conversations troublantes. Son père est décédé depuis d'un cancer, et il va pouvoir commenter les résultats du match de l'équipe préférée de son père. Il va y avoir un résultat, et il va y avoir des choses qui vont être créées par le chatbot qui correspondraient à ce que le père aurait pu dire. C'est une façon de continuer un lien, et c'est extrêmement troublant d'imaginer qu'en perfectionnant les technologies, on arriverait vraiment à avoir une sorte d'identité d'un être cher qui continuerait à réagir.
Une sorte d'immortalité, enfin virtuelle.
Exactement, alors on est dans l'ordre du fantasme, d'autant plus qu'on a demandé notamment à une anthropologue son point de vue sur ce genre de technologie, sur là où on en est, et même sur ce fantasme. Et ce qu'elle explique très bien, c'est que les gens qui travaillent sur ces choses, sur ces chatbots de personnes décédées, ils ont conscience en fait qu'ils parlent pas à une personne décédée. Donc c'est comme avoir vraiment quelque chose à côté. De la même façon qu'on peut avoir eu des hôtels, des mausolées, des choses, des photographies aussi. On a pu avoir pendant un moment l'idée que garder des photographies en permanence des gens qui n'étaient plus là.
Oui, c'est pour les vivants. Et ce sont les vivants qui gardent.
Voilà,
le lien.
C'était une façon d'entretenir morbide, une relation morbide avec des gens qui n'étaient plus là. Les photos, les vidéos, ben là non, voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce ne serait qu'une sorte d'outil au-delà du fantasme d'un vraiment un avatar parfait avec lequel on aurait.
Espérons que ça ne reste qu'une sorte d'outil et qu'en sera-t-il de nos traces à nous dans le virtuel une fois que nous ne serons plus là. C'est de grandes questions qu'on va se reposer certainement ici, mais pas tout de suite. Cécile Estienne, on va commencer par reparler des rêves et d'une nouvelle interprétation des rêves dans Cerveau et Psycho.
Oui, dans ce fameux numéro 100 de Cerveau et Psycho, on a demandé à Isabelle Arnulf, qui est vraiment une des grandes spécialistes des rêves, de faire le point sur les recherches actuelles sur le sens des rêves.
Et alors,
ce qui n'est pas nouveau, c'est que probablement l'explication de Freud n'est pas la bonne. Vous savez, pour lui, les rêves étaient l'expression de désirs qui n'avaient pas été comblés, qu'ils soient conscients ou inconscients. Il semble que ça soit pas ça. Par exemple, un chercheur a fait une petite expérience avec des jeunes hommes à qui il a demandé de ne pas avoir de relations sexuelles, pas de masturbation, rien du tout pendant 15 jours. Voilà. Et il a analysé tous leurs rêves pour savoir si du coup ils auraient plus de rêves érotiques. Pas du tout. Rien de tout ça. Donc ça ne semble pas être ça. Et aujourd'hui,
donc,
mais ne faisons pas un faux procès effectivement à Sigmund Freud, qui est un homme de son époque et qui n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui pour étudier les rêves. Et aujourd'hui, on peut étudier les rêves évidemment avec des tas de procédés d'imagerie. On étudie aussi, on regarde les gens dormir, on écoute ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de gens parlent en dormant, comment ils bougent, comment voilà. Et aussi les carnets de rêves. Et
on leur fait raconter leurs rêves.
On a des volontaires pour ça. Et aujourd'hui, les chercheurs ont compilé des dizaines et des dizaines de milliers de rêves sur lesquels ils peuvent faire des statistiques quand même. Et donc, à quoi ça sert
de rêver? C'est agréable déjà, mais pas que.
Pas que. Il y a beaucoup plus de rêves négatifs que de rêves positifs. Deux fois plus à peu près quand même. Certains chercheurs continuent à penser que ça ne sert à rien, que c'est le cerveau qui cherche juste à donner un sens à des éléments disparates, par exemple, ou de l'extérieur. Si vous entendez une goutte d'eau tomber, vous pouvez rêver qu'il pleut. Okay. Mais la plupart,
des chercheurs un peu d'ordre ou à mouliner ce qu'on a appris journée.
Pour l'apprentissage, absolument. Ça, c'est absolument prouvé. Quand on a appris quelque chose avant de s'endormir, on le retient mieux. On a fait des expériences avec des gens qui apprenaient un petit morceau de piano, par exemple. Ça augmente de 20% les performances, quand même. Donc, élèves de tous les pays, dormez bien après avoir appris vos leçons.
Et rêvez. Pour en savoir plus sur la nouvelle interprétation des rêves, c'est donc à lire dans ce numéro spécial, 100e numéro de Cerveau et Psycho. Et puis nous consacrerons bientôt, ce sera le 16 juillet, autour de la question des rêves et de la créativité, qu'on se le dise. Merci Cécile Estienne, merci Caroline Tourbe, merci Mathieu Novak pour Science et Avenir, merci Philippe Pajot pour la recherche. On se retrouve le mois prochain autour de vos magazines respectifs. Donc j'ai cité La Recherche, Science et Avenir, Science et Vie et Cerveau et Psycho, dont nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs. Ils sont pour vous si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale à bon entendeur.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter, à podcaster, à partager nos émissions. Bonne à mettre entre toutes les oreilles. Qu'on se le dise aussi avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain dans notre aquarium sonore autour de la question jusqu'où nous entraînera l'intelligence des poulpes. Oui, des poulpes, mais aussi des calmars ou des sèches qui ont de la mémoire, en plus d'avoir des cœurs et un cerveau perfectionné. À découvrir lundi sur RFI. Merci de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert dans quelques instants, dans une minute, après les bandes annonces, un nouveau journal sur RFI.